Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Dieu est un Dieu qui aime. Il n'est pas un Dieu comme on le voit dans certaines religions qui est là tout simplement pour dominer l'autre. Il n'est pas ce Dieu-là. Ça, c'est pas un Dieu. Ça, c'est le cœur de l'homme. Dieu est un Dieu qui aime. Dieu est un Dieu qui a de la compassion. Dieu est un Dieu qui a un amour immense. Et cet amour, il veut vous le communiquer ce matin encore. C'est pour ça que le thème de mon message dans les instants qui vont suivre maintenant, c'est celui-ci. C'est le temps du rafraîchissement. Dieu est un Dieu qui veut communiquer des temps de rafraîchissement. Combien sont ceux qui aiment les rafraîchissements? Pas beaucoup, hein? Vous n'aimez pas les rafraîchissements? Quand il fait bien chaud, que vous êtes le dimanche matin au culte déjà depuis 4 heures à écouter votre pasteur, et que le soleil de plomb tape là, non je commence à vous prophétiser pour cet été, et que le soleil de plomb est en train de taper là sur le haut de cette salle, et qu'on n'a pas encore la climatisation, on n'a que de pauvres petits ventilateurs, et là le pasteur lui-même est en train déjà de suer à grosses gouttes, et vous en pouvez plus non plus, tellement que vous suez, vous êtes en train de glisser déjà sur votre chaise là, et à un moment donné, je vous propose, on va arrêter, et je vous propose un temps de rafraîchissement. Il n'y a que 3 qui disent amen. Il n'y en a que 3 qui sont vraiment spirituels finalement. Parce que vous y pensez, mais vous n'osez pas le dire. Vous imaginez là, des bols entiers, là, des cruches entières de jus de fruits avec des glaçons, des choses formidables comme ça qui nous attendent. Bref, des temps de rafraîchissement. Moi j'aime bien les temps de rafraîchissement. Quand il fait bien chaud l'été, qu'on a besoin d'une bonne glace là. Ah, c'est bon, c'est agréable, hein? Hein que c'est vrai? Parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 55, le verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir produit un effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et dans la version en français courant, il est dit ceci, « Il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé, dit le Seigneur. » Avez-vous déjà reçu une parole de Dieu? Avez-vous reçu une promesse de Dieu? Avez-vous reçu des paroles qui aujourd'hui ne se seraient peut-être pas accomplies encore dans votre vie? Est-ce que ça vous est arrivé cela? Est-ce que peut-être vous êtes dans cette situation? Ouais, il y a même des enfants qui lèvent la main, c'est bien ça. Une parole. Parfois, lorsque nous recevons une parole, lorsque nous recevons quelque chose qui vient de Dieu et que nous ne la vivons pas encore, alors il y a certains sentiments qui peuvent venir dans notre cœur. Et par exemple, un des sentiments que nous pouvons avoir, c'est un sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que, pas vous, parce que vous êtes des gens vraiment très très patients. Mais moi, par exemple, qui ne suis pas forcément toujours très patient, lorsque je désire quelque chose, généralement, je le veux tout de suite. C'est ça. Ma femme est d'accord déjà avec moi. Vous prenez le temps d'attendre le bon moment. Vous êtes sage, patient, toute chose. Mais c'est vrai que moi, quand je veux quelque chose ou atteindre quelque chose, bah, très souvent, on le voudrait rapidement. On le voudrait maintenant. Et quand Dieu parle, quand Dieu se révèle à nos cœurs, parfois on a ces mêmes sentiments. On aimerait que ce que Dieu dit s'accomplisse tout de suite. Si on est malade, qu'on reçoit une parole de guérison et qu'on a cette conviction que Dieu va nous guérir, on aimerait que la guérison germe tout de suite et qu'on ne soit pas obligé d'attendre 10 ans, n'est-ce pas? Mais parfois la vérité c'est que on est obligé. Oh, vous êtes décourageant ce matin. On est obligé. Ah ben dis donc, vous avez passé une mauvaise nuit, vous êtes sorti hier soir, vous avez fait des choses très tard et puis vous avez eu du mal à vous lever ce matin, c'est ça? Ah, voilà, on va tout savoir. Oui, on est obligé d'attendre. Et c'est vrai que nous, on n'aime pas. Eh oui, on n'aime pas attendre. Hein. Et pourtant, prière et attendre vont. C'est très souvent le cas. Vous commencez à comprendre petit à petit. Ce dont nous avons besoin lorsqu'une parole de Dieu nous est communiquée, nous est donnée, c'est qu'une fois que nous l'avons reçue, nous devons la garder pour pas qu'elle ne se dissipe, qu'elle s'oublie, qu'on la mette de côté, mais qu'on dise « tu m'as donné une parole ». Donc nous avons ensuite besoin de la méditer, oui, mais aussi pour que nous puissions croire en cette parole qui nous a été donnée et croire qu'elle va s'accomplir, nous avons besoin de la foi. Et pour que la foi, j'ai entendu un mot qui est intéressant, pour que la foi puisse rester en action et toujours efficace quant à cette parole, nous devons quoi faire de cette parole? La, oui, la serrer sur notre cœur, oui, mais il faut la proclamer. Voilà. Vous avez du mal ce matin, là, qui vous avez quoi? Oui, nous devons proclamer cette parole-là. C'est indispensable. C'est, si j'enlève ma veste, ça vous dérange, là? Pourtant, on a coupé le chauffage et tout, là, mais c'est un rafraîchissement, voilà. Formidable. J'ai même prévu le porte-manteau. Extraordinaire. Actes, chapitre 3, verset 19. Il nous est dit ceci. Vous avez vos Bibles? Soulignez ce verset dans votre Bible. Notez cela dans votre Bible. Voilà ce qu'il est dit. Vous n'avez pas vos Bibles? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et regardez ce qu'il est dit. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de qui? Du Seigneur. Dieu prévoit sur nos vies des temps de rafraîchissement. Ça n'a pas trop l'air de vous embêter. Vous voulez que je change de message? Je peux faire autre chose si vous voulez. Non, si ça vous plaît pas, on peut faire l'étude du tabernacle. Ou... Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Regardez la version de la Bible en français courant. Elle dit ceci, « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés, alors le Seigneur fera venir des temps de repos sur votre vie. » Et la version parole vivante nous dit ceci, « Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés, alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur. » Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu motivés pour ce matin repartir de ce lieu avec un temps attaché à leur vie de bonheur, de repos, de renouvellement, un temps particulier de rafraîchissement sur leur vie? Est-ce que vous êtes motivés pour cela ce matin? Parce que si vous n'avez pas envie de recevoir, vous pouvez partir tout de suite. On va ouvrir les portes et ceux qui veulent partir tout de suite peuvent le faire. Parce que Dieu donne à celui qui veut recevoir. Celui qui ne veut pas recevoir, Dieu ne te forcera jamais à recevoir. Jamais il va t'obliger à te donner quelque chose. C'est pour ça que tu peux partir tout de suite si tu veux. Mais si tu veux vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin, Dieu est déjà prêt et disposé à te le communiquer et à te le donner. Et tu peux ressortir tout à l'heure avec quelque chose qui va envahir ta vie, qui sera même d'une nature surnaturelle, parce que la paix de Dieu, elle n'est pas naturelle, elle vient d'en haut, elle est surnaturelle. Le repos de Dieu, le bonheur de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel, parce que ça va au-delà même des difficultés de notre vie. Ça va au-delà de nos soucis, ça va au-delà de ce qui peut traverser, bouleverser, même parfois essayer de détruire notre vie. La paix de Dieu va au-delà de ces choses. Dieu est capable de nous apporter cette consolation et cette vie abondante, alors que les événements de la vie sont catastrophiques. Et oui, et heureusement, parce que Dieu n'est pas un Dieu humain. Il est divin. Et quand il analyse certaines situations de notre vie et qu'il voit que nous n'en pouvons plus, il est celui qui est capable de nous donner cette force de continuer à avancer, de continuer à nous lever le matin suivant et à prendre place et à aller plus loin. J'aimerais simplement vous parler ce matin de ce que Dieu a en réserve pour chacune de nos vies. Nos vies qui sont bien souvent malmenées. Malmenées parfois par nous-mêmes. À cause de notre péché. On parle plus souvent aujourd'hui dans les églises du péché. Même quand on parle du mot péché, on a l'impression que c'est un petit peu... Je lisais un article il n'y a pas très longtemps qui disait « Oh, dernièrement, j'ai entendu parler du péché. » Et la personne à qui elle discutait dit « Ah bon, et alors, qu'est-ce qu'il en disait, ce responsable spirituel ?»« Oh ben, il semblerait qu'il ne soit pas trop d'accord avec ça. » Quel point de vue sur le péché ? Le péché est ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Nous avons trop souvent pensé que le péché, c'était faire des choses qui étaient mal. C'est pas ça le péché. Nous pouvons être des gens très bien et pourtant vivre dans le péché. Nous pouvons être des gens très respectables et pourtant vivre le péché et dans le péché. Nous pouvons être des personnes qui essayent de faire du bien, qui sont très sympathiques et qui pourtant sommes attachés au péché. Parce que le péché, ce n'est pas faire ou ne pas faire, ou faire ou faire ou pas faire. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est de ne pas comprendre d'une certaine manière ce que Dieu a prévu pour nous et de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Le péché, c'est faire notre vie sans Dieu. Le péché, c'est ne pas écouter la voix de Dieu et faire ce que nous avons envie de faire et non pas ce que lui a prévu pour chacune de nos vies. Nous pouvons être très sympathiques, très honnêtes, très droits, très francs, et pourtant Dieu nous considère comme un pécheur. Pourquoi ? Parce que par exemple, il a mis en place un plan de salut pour chacun d'entre nous, et nous le refusons, nous n'acceptons pas ce plan de salut. Il a donné son fils Jésus-Christ, et nous disons non, nous n'en voulons pas forcément. Ou nous en voulons, mais simplement une partie, pas le reste. Dieu a prévu des choses particulières pour nous. Notre vie est bousculée par le péché. Notre vie est bousculée par toutes sortes d'incidents, de difficultés, d'épreuves que nous pouvons rencontrer. Nous sommes bien souvent ballottés par les soucis, par la crainte du lendemain, par des épreuves qui sont là, des conflits au travail, toutes sortes de combats, de luttes chaque jour. Est-ce que ce n'est pas la réalité de notre vie ? La maladie qui nous frappe ? Les difficultés financières ? Les difficultés avec un membre de notre famille ? Avec un enfant avec qui nous pouvons avoir des difficultés aussi. Nous avons du mal à l'éduquer, à l'enseigner. Il ne fait pas forcément ce que nous pensions ou nous penserions qu'il puisse faire. Bref, nos vies sont dans cette situation. On en supporte les conséquences parce qu'on ne reste pas indemne des épreuves et des difficultés. Parfois, on est écorché. On en souffre parce qu'on a été déchiré, parce que nos cœurs ont été blessés. Parce que nous avons été atteints par différentes choses, de la médisance, de la critique et bien d'autres choses encore. Et finalement, nous sommes bousculés dans notre vie dans des temps comme cela. On ne sait parfois plus trop où nous en sommes, mais ce matin, Dieu a réservé pour chacun d'entre nous des temps de rafraîchissement. Il y a des temps pour la souffrance, mais il y a des temps pour le rafraîchissement. Il y a des temps pour la douleur, il y a des temps pour la maladie, puis il y a des temps pour que Dieu nous communique sa force qui va nous rafraîchir et qui va nous permettre d'aller plus loin. Les temps de rafraîchissement ne sont pas forcément des temps où l'intervention divine intervient et alors nos problèmes s'envolent et disparaissent. C'est pas forcément ça, un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement, ça peut tout simplement être un moment où alors que nous sommes là, au sein même de notre épreuve. La Bible nous parle de la vallée de Baca, la vallée de la mort, où par exemple on est dans le deuil, où on est dans des situations difficiles dont on n'arrive pas à se sortir et on n'arrive pas à aller plus loin, à avancer. La Bible nous dit qu'un temps de rafraîchissement, c'est un moment où alors que nous sommes là complètement noyés dans notre problème, Dieu va nous communiquer cette force pour continuer à aller plus loin avec lui. Il ne permettra jamais que tu te noies. Parfois l'eau arrive jusque là. Et parfois jusque-là. Mais il ne te laissera pas suffisamment de temps en dessous pour que tu te noies. Il te ressortira la tête de l'eau. Parce que Dieu n'est pas adepte du suicide. Dieu n'est pas là pour nous amener à la mort. Dieu est là pour nous amener à la vie. Et ce matin, il veut te communiquer la vie. Ce matin, il veut t'apporter ce dont tu as besoin. Il veut rafraîchir ton âme. Il veut rafraîchir tes pensées. Il veut rafraîchir ton corps. Il veut que tu sortes de là avec un plein ballon d'oxygène pour que tu puisses marcher dans toute cette semaine où peut-être tu auras d'autres épreuves, d'autres difficultés, d'autres problèmes à rencontrer. Mais Dieu va te communiquer cela. Les épreuves, les difficultés sont là pour nous aider. C'est ce qui nous sert à garder la tête hors de l'eau. On aimerait se passer des épreuves, pourtant c'est un des moyens qui est utilisé pour que Dieu façonne notre cœur. On est tellement dur, c'est pas vrai ? Tellement dur, tellement orgueilleux, tellement fier parfois, que pour que Dieu travaille avec nous, il a besoin d'œuvrer au plus profond de notre cœur. Tant que notre cœur est dur de cette manière-là, Dieu ne peut rien faire avec nous. Alors les épreuves, les difficultés, souvent sont là. Et elles sont utiles. Pourquoi ? Parce que lorsque nous passons par ces épreuves et ces difficultés, alors forcément, on va résister humainement, d'une certaine manière, dans un premier temps, et petit à petit, eh bien, nous allons céder à ces difficultés. Et au fur et à mesure, notre cœur va devenir tendre. Et Dieu dit, eh bien, c'est là. Peut-être que tu es en train de te poser la question de savoir, mais pourquoi je passe par ces épreuves ? Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi ? Et le problème, c'est que tu t'es même engagé dans un combat, même parfois, il semblerait spirituel, même diabolique, hein, où tu penses que finalement, si tu es dans cette situation-là, c'est simplement une oppression ténébreuse et une action diabolique. Voilà, on va laisser sortir le petit. Il y a une garderie à votre disposition. Merci. Mais Dieu veut simplement nous dire ce matin que les épreuves par lesquelles nous passons ne sont pas forcément d'origine et systématiquement diaboliques. Peut-être que si tu passes par ces moments difficiles actuellement, c'est tout simplement parce que ton cœur est dur. Et Dieu a besoin de ramollir ton cœur. Il a besoin de le rendre tendre. Parce que tant que tu es sur cette position, Dieu ne peut pas parler à ton cœur parce que tu fais celui qui connaît tout, qui sait tout. Et Dieu essaye de t'enseigner, mais tu ne l'écoutes pas. Tu l'écoutes d'une oreille, mais tout de suite ça sort parce qu'en toi-même, tu as déjà ce raisonnement qui dit, de toute façon, moi, j'ai raison. Le Seigneur veut te dire ce matin, tu n'as pas raison. Tu as tort. Et tant que tu insisteras dans cette attitude de dire que tu as raison, eh bien, Dieu va accentuer l'épreuve sur ta vie. Et il t'amènera jusqu'au bout. Parce que tu lui as demandé. Non pas d'aller jusqu'au bout, mais tu lui as dit que tu voulais qu'il travaille ton cœur, tu voulais le servir, tu voulais qu'il fasse des choses avec toi. Dieu t'a entendu, et en ce moment, il est en train de te répondre. Ah, c'est sûr que tu n'avais pas prévu ce genre de situation, mais lui, il l'avait déjà prévu. Il a besoin de dépouiller ta vie, de cet orgueil, de cette fierté, de cette attitude d'être imbu de toi-même. Et toujours vouloir montrer que tu sais tout, que tu connais tout. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais je crois que Dieu parle à quelqu'un en particulier ce matin. Tant que tu n'abdicteras pas, tant que tu ne céderas pas, Dieu aura cette position. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu entends ? Dieu résiste aux orgueilleux. Et ce n'est pas toi avec ton caractère et ton attitude qui va faire fléchir le genou de Dieu. Parce que Dieu ne se mettra pas à genoux devant toi. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Et dans la logique de Dieu, ce qu'il désire, c'est que tout simplement, ton cœur ce matin devienne humble. Et on ne devient pas humble en claquant des doigts. Il y a tout un travail de fond. Notre éducation, notre enseignement, tout ce que nous avons vécu pendant bien longtemps, a forgé notre cœur. Les difficultés, les épreuves de la vie nous ont amenés à endurcir notre cœur. Quand la souffrance est là, il y a un principe qui est ni spirituel ni quoi que ce soit, il est humain ce principe. C'est de se blinder pour ne pas continuer à laisser cette souffrance nous envahir afin que nous puissions continuer à avancer et à marcher avec Dieu. Le problème, c'est que quand on arrive dans un temps avec un contact spirituel, quand nous commençons à comprendre que Dieu veut faire quelque chose en nous, il y a quelque chose qui est à briser dans notre cœur. Et tant qu'on ne permet pas à Dieu de briser cela, eh bien Dieu attend le bon moment. Et il nous laisse continuer notre vie. Pourquoi ? Parce que tant que ce qui nous anime personnellement sont nos principes personnels, nos mobiles personnels, nos envies, nos désirs, bref, tout ce qui est de notre personnalité, tant que c'est ces choses-là qui animent notre vie et notre cœur, Dieu ne peut pas nous utiliser à sa gloire. C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu même dans les plus petites choses si dans ton cœur la seule chose qu'il y a, c'est que, en fin de compte, tu cherches à te servir toi-même. Tu cherches à être mis en avant toi-même. La seule chose dont tu as besoin, c'est de cette onction de Dieu, ce rafraîchissement. Et c'est ça qui va t'amener à vivre une vie complètement différente, hein, avec Dieu. Il y a un secret. pour apprécier des temps de rafraîchissement spirituel que Dieu veut nous accorder, le secret est le suivant. Les temps de rafraîchissement viennent lorsque nous sommes en action. Tant que nous sommes statiques, tant que nous sommes en arrière, tant que nous sommes arrêtés, les temps de rafraîchissement ne viennent pas. C'est quand nous décidons à obtenir que Dieu commence à nous donner. C'est quand nous démarrons, et c'est ce que nous avons vu un petit peu la semaine dernière également, c'est quand nous faisons ce pas de la foi pour dire « J'ai besoin de ce temps de rafraîchissement, j'ai besoin que tu me relèves, j'ai besoin que tu brises véritablement cet orgueil pour me donner un cœur humble, un cœur selon ton cœur. » Qu'alors, ces temps de rafraîchissement viennent. Vous vous rappelez de cette histoire de Bartimée? J'aime bien Bartimée, je parle souvent de Bartimée parce que j'aime bien ce bonhomme. Parce que j'apprécie beaucoup son attitude, la situation et l'attitude de son cœur. Tant qu'il est resté au bord du chemin, sans rien dire, ça faisait des années qu'il était là, rien ne se passait. Oh oui, il attendait des temps de rafraîchissement, mais il ne venait pas. Il a fallu qu'il se manifeste. Il a fallu qu'il commence à crier. Il a fallu qu'il commence à demander. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un processus s'est mis en route et que des temps de rafraîchissement ont commencé à découler sur sa vie et que finalement sa vie a changé. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a pu se lever et ce jour-là rentrer chez lui entièrement différent que quelques instants avant où il était assis au bord du chemin? Il a découvert la présence de Dieu. Ce qui donne des temps de rafraîchissement, ça vient de la présence de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Bartimée n'était pas dans la présence de Dieu. Mais quand il est venu à Jésus, le rafraîchissement de Dieu est venu également sur sa vie. Et ce rafraîchissement lui a apporté la guérison de ses yeux. Il a retrouvé la vue. Il y a bien des hommes et des femmes, peut-être même ce matin au milieu de nous, vous avez besoin de retrouver la vue. Oh, peut-être pas cette vue physique, mais cette vue spirituelle. Vous avez perdu la vue spirituelle. Vous avez perdu la vision de Dieu. Vous ne voyez plus comme Dieu voit aujourd'hui. Vous venez à l'église, vous lisez votre Bible, vous priez de temps en temps, mais vous n'avez plus ce renouvellement dans votre vision et vous ne voyez plus les circonstances de votre vie, vous ne voyez plus la situation de votre vie telle que Dieu, lui, la voit. Le résultat de cela, eh bien, c'est que vous vous affligez, vous vous découragez, vous vous angoissez, vous avez de la crainte, de la peur, vous avez peur de ce qui va arriver demain. Vous ne voyez pas votre solution de solution et vous ne voyez pas de situation pour votre vie changer, être différente. Pourquoi ? Parce que vous avez perdu cette vision spirituelle. Ce matin, Dieu veut faire descendre sur ta vie un rafraîchissement spirituel pour que tu retrouves la vision divine. Que tu puisses contempler enfin ta vie, ton couple, ta famille, ou tes enfants, ou tes problèmes au travail, ou tes problèmes personnels, ou même ta maladie, ou toutes les choses qui sont autour de toi, que tu puisses voir enfin tel que Dieu lui voit cette situation. Et tu vas te rendre compte que Dieu ne voit pas du tout ta situation telle que toi tu es en train d'analyser. Toi aujourd'hui tu tires un certain nombre de conséquences de ta situation, Dieu te dit ces conséquences elles sont erronées. Parce que moi, je ne vois pas du tout les choses de cette manière-là. Et tant que nous ne laissons pas notre esprit être rafraîchi par Dieu, alors nous nous enfonçons. Nous nous enfonçons. Et nous nous enfonçons toujours davantage. Nos lendemains n'ont pas d'espoir. Tout semble noir, négatif. Il semblerait même qu'il n'y a plus d'espérance. Ça, ce sont simplement des attitudes et des réactions humaines. Bartimée n'était plus dans la présence de Dieu. Et pourtant le rafraîchissement est venu parce qu'il a décidé de permettre à la présence de Dieu de le toucher, de l'envahir, de croiser sa vie. Deuxièmement, je dirais que le rafraîchissement vient lorsque nous servons, lorsque nous sommes en action, mais lorsque nous servons également le Seigneur. On pourrait apporter un synonyme au mot rafraîchissement et on pourrait lui donner le mot onction, puisque c'est l'onction de Dieu qui nous rafraîchit. À l'époque, on utilisait de l'huile d'olive, mais on utilisait des olives. Et pour rafraîchir, on prenait des olives et on frottait. onction veut dire frotter. C'est un des traductions des mots hébreux ou grecs que nous pouvons trouver aujourd'hui. C'est une des traductions, il y en a plusieurs. Mais Dieu donne ce rafraîchissement quand nous allons utiliser ce rafraîchissement pour quelque chose à bon escient. Quand nous sommes engagés pour le servir. Quand nous orientons nos buts et nos objectifs pour dire « Seigneur, maintenant je vais arrêter de penser qu'à moi. Je vais arrêter de penser qu'à ma vie professionnelle. Je vais arrêter de penser qu'à ma petite personne. J'aimerais commencer à penser aux autres. J'aimerais commencer à servir les autres. » À partir de ce moment-là, Dieu commence à s'empresser à te communiquer le rafraîchissement. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que ces pensées commencent à traverser ton esprit, tu commences à être utile pour Dieu. Dieu commence à voir dans notre cœur que quelque chose est là, nécessaire, et alors il va pouvoir te le communiquer. Certains voudraient d'emblée, quand on parle d'onction, on parle de puissance, et d'emblée ils voudraient la puissance, ils voudraient les miracles, et ils prient tous les jours presque pour avoir la puissance, pour chasser des démons, pour avoir la puissance, pour guérir des malades, pour avoir la puissance pour ceci, puissance pour cela. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes, bien au contraire, nous devons réclamer ces choses, nous devons les avoir, les obtenir et les vivre. Mais Dieu ne peut pas commencer par là avec toi. Il y a tout un processus. Et avant de te donner cette puissance, il a besoin de travailler ton cœur. Il a besoin de transformer ton cœur. Il a besoin de changer ton cœur. Il a besoin de faire de ton cœur de pierre un cœur de chair véritable. Il a besoin de changer ton entendement, ta compréhension individuelle, personnelle, intellectuelle, par la compréhension divine des choses qui viennent d'en haut, afin que tu comprennes ce que Dieu fait réellement dans ta vie. L'onction vient lorsque nous sommes en action. L'onction vient lorsque nous sommes au service. Regardez cet exemple de Pierre et Jean lorsqu'ils sont montés au temple dans Actes 3. On s'arrête souvent sur ce passage en disant « c'est formidable, ils montent là au temple, ils sont là pour l'heure de la prière et ils voient cet homme boiteux. » Et vous connaissez cette phrase qui est donnée « je n'ai rien, mais ce que j'ai, dit l'apôtre Pierre, eh bien je te le donne au nom de Jésus-Christ et cet homme va être instantanément guéri. » Vous croyez que Pierre et Jean ont pu communiquer ces choses tout simplement parce qu'ils ont réclamé la puissance ? Non. Pierre a dû passer par un renoncement. Pierre a dû passer par ce brisement de son orgueil, de sa vanité et de sa fierté. Nous, on aimerait l'onction et la puissance sans que Dieu affecte notre vie, notre cœur. Tel que nous sommes, tel que tu es, tu ne peux pas servir. Il faut une œuvre de Dieu dans ta vie. Il faut un travail du Saint-Esprit. Quand ce travail du Saint-Esprit est en action, alors Dieu va pouvoir commencer à t'utiliser. Et dans des moments opportuns, comme par exemple celui-ci, ou un autre moment également, lorsque nous avons l'ombre de Pierre, par exemple, qui va guérir les malades. On en a parlé il y a quelque temps. Vous croyez que cette ombre, Pierre, a lui demandé que son nom guérisse les malades ? C'est parce que cet homme avait laissé son cœur être travaillé par Dieu. C'est parce qu'il avait laissé et permis à Dieu que sa vie et son orgueil et sa fierté soient brisés. Alors Dieu a pu lui communiquer de nouveaux sentiments. Et avec ces sentiments nouveaux, dans tous ces événements, il n'a jamais attiré la gloire à lui, mais il l'a toujours redonné à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de briser nos cœurs et ce matin, nous rafraîchir spirituellement. Parce que tels que nous sommes, si quelques grâces, quelques bénédictions ou quelques miracles pourraient arriver, nous serions capables de les attribuer à notre personnalité. Oh, si c'est arrivé, c'est parce que j'ai su prier, j'ai su chasser, j'ai su être saint, j'ai su être dans l'onction, j'ai su être dans la sanctification, j'ai su ceci et j'ai su cela. Le Seigneur nous dit parfois, j'en ai marre de ce que tu sais, parce que avec ce que tu sais, tu ne fais rien. Laisse ce que tu sais, et le Seigneur nous dit parfois, et ce matin encore, laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi t'éduquer, laisse-moi te montrer de quelle manière je veux travailler avec toi et de quelle façon tu seras béni de la part de Dieu. Alors, le rafraîchissement vient de la présence de Dieu. Et comme Bartimée, ben, il y a un temps. Et certainement que ce matin, bien, c'est le temps des rafraîchissements. Partie 3. La présence de Dieu, c'est ça l'onction. On a cherché parfois des choses compliquées. L'onction, c'est tout simplement la présence de Dieu. C'est cette intimité, cette communion qu'il y a entre nous et Dieu. On a mis plusieurs mots sur le mot onction. Il y a un temps. Alors comment recevoir la présence de Dieu ? Eh bien c'est simple. Et Dieu a donné un moyen très très simple pour recevoir, la partie 2, nous dit ceci. Dieu nous a donné l'adoration. Et c'est l'adoration qui fait venir l'onction. L'adoration, ce n'est pas un style, c'est une relation avec Dieu. L'adoration, c'est une expression d'amour. L'adoration, c'est un ministère. C'est un service que nous rendons à Dieu. Ce n'est pas un truc bizarre. Ce n'est pas un truc que les églises ont aujourd'hui que... Non, non. L'adoration amène l'onction. Et nous avons besoin chaque jour d'une onction qui est fraîche. Une onction renouvelée. Pourquoi les dimanches matins, les mardis, à chacune de nos réunions, nous passons un temps à adorer Dieu? On pourrait tout simplement commencer par la prière et faire quelques chants à la fin pour terminer. Non. Parce que la musique, la louange, amène à l'adoration, et l'adoration amène la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, alors des événements se passent, des miracles s'accomplissent, et une œuvre de puissance est en action et en œuvre dans notre vie. L'adoration. Mettez un point essentiel à l'adoration chaque jour de votre vie. N'attendez pas simplement le dimanche matin pour adorer. Achetez des cassettes de CD, de louanges, etc. Mettez ça dans vos voitures. Et quand vous roulez quelque part, quand vous vous déplacez pour aller quelque part, mettez ces cassettes, écoutez la louange, l'adoration. Chantez, adorez, glorifiez le Seigneur. Vous sentirez sa présence. Quand vous adorez, la présence de Dieu vient. Il y a des gens qui me disent parfois, mais moi j'ai jamais senti là, vraiment la présence de Dieu. Comment on sent vraiment la présence de Dieu? Et parfois je leur ai dit, mais est-ce que vous savez adorer Dieu? Et pour certaines personnes, parfois, adorer Dieu, c'est simplement venir ici dans ce lieu, écouter des chants, chanter de temps en temps un petit peu quand on commence à connaître les chants et les paroles qui sont affichées aux vidéos. Mais c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est pas chanter. Chanter, c'est louer. On chante la gloire de Dieu. On loue. Louer, c'est vanter les mérites de quelqu'un. En l'occurrence, Dieu. Nous vantons ses mérites à travers ses chants. Nous le louons, c'est-à-dire que nous l'honorons, nous le célébrons. Nous bénissons l'acte qu'il a accompli en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et nous louons Jésus-Christ pour le fait que sur la croix, il n'est pas simplement mort, mais il est aussi ressuscité. Il y a une œuvre de puissance qui s'est manifesté. Ça, c'est de la louange, mais ce n'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est ce moment particulier où nous ne sommes plus forcément attentifs uniquement aux paroles ni à la musique, mais notre cœur s'attache au cœur de Dieu. Et il y a comme une communion, une communication qui s'établit entre lui et nous. Et là, on sent qu'il y a un cœur à cœur qui est en train de se mettre en place. Et nous commençons là à adorer, à vénérer la présence de Dieu. C'est autre chose. Et cela ne se fait que quand on a l'esprit tranquille, libre. Parfois nous sommes dans une situation où notre vie ne permet pas tout ce que nous sommes en train de vivre, mais il y aurait des obstacles à la bénédiction, des obstacles à l'action de Dieu. Ce n'est pas grave, parce que dans un tel moment, nous arrivons, lorsque des chants commencent, lorsque la louange commence à s'installer, à mettre de côté tous nos soucis, à les déposer vraiment aux pieds du Seigneur, et à dire, Seigneur, viens libérer mon cœur ce matin. Viens libérer mon cœur de tous ces soucis, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, et viens m'amener dans ta présence. Troisièmement, l'onction que nous avons besoin, c'est une onction fraîche. Parce que l'onction d'hier, c'est du pain rassis. Nous n'avons pas besoin. Vous aimez le pain rassis? Vous aimez le pain qui est dur? Vous savez, il a passé un jour ou deux là. Vous avez du mal à le couper. Généralement, on aime le pain frais. Moi, quand je fais la pasta choute, la sauce tomate italienne, J'aime pas mettre de l'huile d'olive qui est rance. J'aime mettre de l'huile d'olive qui est fraîche. Première pression à froid. Et cette huile d'olive, pas celle qu'on trouve un peu partout comme cela, qui n'a aucune odeur, qui ne sert à rien. Non, mais cette huile d'olive qui a été, nous le savons, faite, elle a été pressée. On a vu les olives. Et parfois les noyaux. Cette huile qui a du goût. Ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous rafraîchir avec une huile fraîche. Il ne va pas chercher une huile qui a 2 jours, 3 jours, 15 jours ou 20 jours. Non, il veut une huile fraîche. Dans le psaume 92, il est dit ceci. Il dit, je suis arrosé avec une huile fraîche. Tu as besoin sur ta vie d'un renouvellement, d'une onction chaque jour. Parce que l'onction d'hier, elle est âpre, elle est acide, elle est acerbe, elle est rance. Mais une huile renouvelée, elle est fraîche, elle est agréable et elle a des vertus. L'onction de la présence de Dieu a une efficacité. Et la première efficacité qu'a l'onction de Dieu, c'est qu'elle est créatrice. Elle crée quelque chose. Combien sont ceux qui ont besoin d'être créés intérieurement ? Combien sont ceux à qui il manque quelque chose et ils ont besoin que quelque chose soit créé dans leur vie ? J'ai mis simplement 2-3 choses comme cela. L'onction, renouvelée, rafraîchie, crée un esprit de service. L'onction renouvelée sur notre vie crée le zèle, l'équilibre. L'onction crée un bien-être incomparable. L'onction de Dieu est créatrice. Et puis, elle a une action également qui porte des fruits dans notre vie. Et puis je vais terminer avec ça, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Une onction fraîche sur notre vie, elle porte des fruits. Et vous pouvez regarder chez vous le psaume particulier, en particulier le psaume 89. Mais qu'est-ce que cela apporte ? L'aide de Dieu, le soutien de Dieu lorsque nous avons cette onction fraîche sur notre vie. L'élévation et l'autorité également. Parce que Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous élève. Oui. Quand toi, tu as arrêté de vouloir t'élever toi-même, c'est à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à t'élever. Parce que la Bible nous dit que Dieu abaisse celui qui veut s'élever soi-même. Mais celui qui est humble, Dieu lui-même, il l'élève. Parfois, on cherche de l'autorité. Mais l'autorité, c'est Dieu qui nous la donne. Si tu la prends par toi-même, alors c'est une autorité humaine. Elle ne porte pas de fruits. C'est Dieu qui donne l'autorité. L'autorité de sa parole. L'onction fraîche nous élève. L'onction fraîche nous communique l'autorité. L'onction fraîche sur notre vie nous amène à être soutenus par la main de Dieu. À avoir la force de Dieu en nous. Cette onction fraîche, elle nous protège même de la tromperie, nous dit le psaume ici, 89, le verset 23. De ceux qui cherchent à te tromper, à te mettre dans des situations où il y aurait des compromis, l'onction fraîche de Dieu te garde du mensonge, te garde de la tromperie. Elle te maintient dans la vérité, dans la pureté et dans la sainteté. Mais quand c'est l'onction d'hier qui est rance, alors là tu fais des faux pas et tu tombes bien souvent dans des situations qui sont ensuite regrettables. L'onction fraîche sur notre vie, elle nous donne d'avoir la victoire de Dieu sur nos adversaires, sur les difficultés, les problèmes que nous pouvons rencontrer ici ou là. Elle nous donne la fidélité et la bonté de Dieu. Elle nous communique un visage resplendissant. Une onction fraîche, elle change même l'aspect de ton visage. Oh, même ta face, elle change. Eh oui, lorsque l'onction de Dieu vient pénétrer ta vie, même les traits de ton visage sont différents. Tu resplendis à la gloire de Dieu. Imagine une huile rance, ce que ça peut faire. Mesdames, vous ne mettriez jamais des pommades sur votre peau qui sont dépassées depuis 2-3 ans. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. On va aller acheter un pot neuf afin de pouvoir rafraîchir notre peau. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dieu n'utilise rien d'hier ou d'avant-hier. La Bible nous dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Ses grâces, ses miséricordes, chaque matin sont renouvelées pour notre vie. Et ce matin, particulièrement, tu nous les renouvelles. Seigneur, viens changer même les traits de notre visage. Viens nous rendre resplendissants à ta gloire. Une onction fraîche nous donne la capacité d'aller et de faire du bien. On pourrait lire chapitre 10 du livre des Actes, verset 38. Elle nous donne cette force, cette capacité. Elle nous communique la présence de Dieu. Elle apporte une joie supérieure, quelque chose d'ineffable qui est là. Ça, c'est l'onction. Comment ça marche? C'est très simple. Regardez le processus. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et nous allons faire cela ce matin. Vas-y, mon gars. Une onction fraîche produit en nous des changements. Et c'est ce que nous voulons. C'est des changements, n'est-ce pas? Nous voulons une transformation, oui ou non? Avec une telle conviction, il ne va pas se passer grand-chose ce matin. Arrêtez de dire ça. Est-ce que vous voulez vraiment un changement dans votre vie ce matin? Une transformation véritable? Le principe de Dieu est simple. Il a donné l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration amène la présence de Dieu. Sa présence, c'est l'onction. Et l'onction communique une puissance. Et la puissance produit un changement. C'est pas plus compliqué que ça. Répétez ça avec moi. Dieu a donné l'adoration. L'adoration amène la présence de Dieu. Sa présence, c'est l'onction. Et l'onction communique une puissance. Et la puissance de Dieu produit en nous un... Alléluia! Qui veut ce changement ce matin? Qui veut recevoir cette onction de Dieu ce matin? Qui veut une œuvre de puissance? Qui veut recevoir pour pouvoir entrer dans l'adoration, ressentir la présence?